Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous et bienvenue sur Accent d'Europe avec une sélection de quelques-uns de nos meilleurs reportages. C'est une des conséquences inattendues de l'arrivée des réfugiés en Allemagne, les conversions religieuses. À Berlin, l'église de la Trinité ne désemplit pas. En 2008, cette paroisse évangélique luthérienne indépendante était pourtant sur le point de fermer. Aujourd'hui, elle compte 850 membres, dont près de 600 sont originaires d'Iran ou d'Afghanistan. La plupart sont des réfugiés qui se sont convertis au christianisme à leur arrivée en Allemagne. Conversion sincère ou calculée afin de sécuriser leur attachement à leur nouveau pays d'accueil. Déborah Berlioz est allée les rencontrer à Berlin.
La foule se presse dans l'église de la Sainte Trinité. Ce matin, le pasteur Martins va célébrer 17 baptêmes. Et petite particularité, tous ces nouveaux chrétiens sont des réfugiés. Gelare, par exemple, a fui l'Iran il y a 3 ans.
J'ai reçu un mandat d'arrêt et j'ai dû fuir immédiatement avec mes 2 enfants pour venir en Allemagne. C'est une longue histoire, mais en gros, on peut dire que j'ai écrit contre l'islam.
Déjà à l'époque, Gelare était attirée par le christianisme. Aujourd'hui, elle a donc le sentiment d'avoir trouvé sa place. Et parmi les fidèles présents ce matin, on compte des Allemands, certes, mais surtout beaucoup d'Afghans et d'Iraniens. Le service se fait donc en allemand et en farsi. Néo, 24 ans, a rejoint la paroisse il y a 1 an. D'origine afghane, il a grandi en Iran, mais son expérience de l'islam l'a éloigné de sa religion.
Je suis né en Iran, mais je n'avais pas le droit d'aller à l'école et je n'avais pas de passeport. C'est un pays musulman pourtant et je n'ai rien pu avoir. Ici en Allemagne, les réfugiés sont aidés et le pasteur Martins m'a beaucoup aidé. Il est comme un père pour moi.
Tout a commencé en 2011 quand 2 Iraniens sont venus frapper à la porte du pasteur Martins. Depuis, chaque membre amène un parent ou un ami. Et cette année, le pasteur a déjà célébré plus de 150 baptêmes. Andreas Goetze est responsable du dialogue interreligieux pour l'église protestante de Berlin et sa région. Selon lui, les réfugiés qui se convertissent en Allemagne sont surtout des Iraniens ou des Afghans, et principalement des chiites.
Ce qui se passe dans cette paroisse est assez unique pour Berlin. Il y a une autre paroisse iranienne avec un pasteur qui vient directement d'Iran, qui dit qu'il fait aussi des baptêmes, mais que ce n'est pas un phénomène de masse.
Certains doutent parfois de la sincérité de ces conversions. Les réfugiés ne se tourneraient vers le christianisme que pour favoriser leur demande d'asile. Pourtant, un baptême ne garantit plus d'obtenir le statut de réfugié. Mais il est vrai qu'un converti ne pourra pas être expulsé vers un pays comme l'Iran, qui punit l'apostasie, en clair, ceux qui se détournent de l'islam. Le pasteur Martins, quant à lui, ne doute pas de la conviction de ses nouveaux paroissiens.
Nous faisons toujours 3 mois de cours avant le baptême. Puis il y a un examen et ceux qui le réussissent sont baptisés. Mais nous ne baptiserons jamais quelqu'un qui veut se convertir juste pour avoir l'asile. Et plus de 90% de ceux qui obtiennent le statut de réfugié continuent de venir ici à l'église.
Et ils sont actifs dans la communauté. Après le service religieux, certains ont préparé un repas iranien pour tous les paroissiens. Et cela réjouit Christa. Cette Allemande de 75 ans fréquente cette église depuis qu'elle est enfant.
Avant, l'église était vide, 15 personnes. Mais maintenant, elle est pleine. On y trouve à peine de la place. Et nous sommes internationaux. Il y a des Finlandais, des Iraniens, des Afghans, des Pakistanais, des Syriens. Je trouve ça magnifique.
Et ce mélange favorise l'intégration des réfugiés, selon le pasteur Martins.
Nous donnons aussi des cours d'allemand et la semaine prochaine, le club des jeunes organise des activités avec 40 jeunes, des Allemands, des Iraniens et des Afghans. L'intégration se passe vraiment naturellement.
Néo parle déjà bien allemand, mais il attend encore une réponse pour sa demande d'asile. S'il l'obtient, il aimerait joindre l'armée allemande, puis les casques bleus.
Lors de mon voyage d'Iran jusqu'ici, j'ai vu beaucoup de réfugiés et je veux les aider. Certains n'ont pas d'argent et aucune chance de faire le voyage jusqu'en Europe. Il faut protéger ces gens.
Le pasteur Martins, quant à lui, passera le reste de son dimanche dans son bureau à recevoir des paroissiens. Avec un traducteur, il aide les demandeurs d'asile dans leur démarche administrative. Et l'église fournit actuellement l'asile à 10 réfugiés iraniens et afghans.
C'est une initiative simple, mais tellement utile. Une carte des besoins interactive qui permet de mettre en lien des bénévoles ou de simples citoyens voulant faire un don et des villages, des écoles, des familles démunies. Il n'y a aucun échange d'argent sur ce site. L'idée est née en Turquie et connaît un très grand succès à Istanbul, à Nandlauer.
C'est le genre de site internet qu'il faut prescrire d'urgence à ceux qui seraient tentés de désespérer de l'humanité. Ihtiyaçalitası.org, littéralement la carte des besoins en turc, c'est l'adresse où se retrouvent ceux qui ont besoin d'aide et ceux qui veulent aider. On ne parle pas ici de collecte de dons à hauteur de milliers d'euros ni d'envoyer des containers chargés de tonnes de matériel. Non, ici il s'agit de trouver un fauteuil électrique pour un garçon handicapé, un projecteur pour une école d'Ordu au nord de la Turquie, un professeur d'informatique pour un groupe de villageoises. La carte des besoins a été mise en ligne en octobre. Elle est l'œuvre d'un célèbre comédien turc, Mert Ferhat, connu aussi pour son implication dans divers projets sociaux et caritatifs. En moins de 2 semaines, le site comptait déjà plus de 4000 membres qui avaient répondu à 1300 besoins. Car il faut d'abord s'inscrire, puis indiquer si l'on souhaite lancer un appel à l'aide, répondre à un appel ou devenir bénévole sur tel ou tel projet. Les besoins sont précis et très localisés. La plupart concernent des écoles, en grande majorité dans des villages de l'est de l'Anatolie. Cette carte est ainsi le triste reflet de l'état de dénuement dans lequel doivent apprendre une partie des élèves du système public turc. À Van, c'est une école primaire qui demande des rideaux et un poêle à charbon. À Areux, des écoliers ont besoin de chaussures et de manteaux avant l'hiver. À Şanlıurfa, une classe de village demande de la peinture pour repeindre les murs. Et ce ne sont que quelques exemples. L'équipe derrière ce site, une dizaine de personnes, assure vérifier chacune des annonces avant de les publier. Elle insiste aussi sur le fait que les dons d'argent sont interdits. En revanche, elle encourage ses membres qui ont bénéficié d'une aide à leur envoyer des photos qu'elle publie chaque jour sur les réseaux sociaux. La page Facebook du projet regorge sans surprise de clichés de petits écoliers posant devant les jouets ou le matériel scolaire qu'ils viennent de recevoir d'un illustre anonyme, leur bienfaiteur d'un jour.
Et nous nous rendons dans un des plus grands ghettos de Slovaquie. L'Unique 9, c'est son nom, se trouve à Košice, au sud-est du pays. Dans cette cité délabrée, 7000 Roms vivent dans des conditions pitoyables, avec un faible accompagnement social. Beaucoup tentent leur chance en émigrant vers la Belgique ou l'Angleterre. Les damnés de l'Unique 9, c'est le reportage de Daphné Gastaldi avec Alberto Campi et Mathieu Martignard.
Des barres d'immeubles insalubres, des montagnes de détritus et un air difficilement respirable. L'Unique 9 est considéré comme le pire ghetto rom du pays, délaissé par les services publics. Dans cette cité surpeuplée, le chômage touche 90% de la population.
Et c'est des gens qui ont pris l'alcool.
Des enfants ?
Des enfants.
Dans la matinée, quelques adultes sont déjà ivres. Un enfant inhale même de la colle juste à côté de nous. Les services sociaux nous avaient prévenus. 2 jours après le versement des allocations, une partie de l'argent est dépensée dans l'alcool, signe d'une extrême pauvreté en plein cœur de l'Europe. Eva, elle, travaille à l'école du quartier. Elle a tout fait pour que ses enfants quittent ce ghetto et étudie en centre-ville.
C'était difficile, je voulais qu'ils grandissent parmi les enfants blancs, qu'ils aient une bonne formation, parce que l'école ici, dans le ghetto, c'est une école que pour les Roms.
Vous parlez de blancs et de Roms ?
Je ne sais pas pourquoi, mais ici, ça a toujours été comme ça, les Roms et les Blancs. Si je vais faire un dossier administratif, dès qu'ils voient que j'habite l'Unique 9, ils réagissent différemment d'un coup.
Les enfants d'Eva travaillent désormais à l'étranger, en Grande-Bretagne. C'est l'exclusion et la précarité qui poussent ces Roms sédentaires à émigrer. Les autres survivent avec un minimum d'allocations sociales. Ladislav Sania est l'ancien maire de l'arrondissement de l'Unique 9 et conseiller Rom à la mairie centrale de Košice. Il s'inquiète de voir sa communauté au banc de la société.
Le racisme augmente et le drame, c'est que les Slovaques nous considèrent comme des étrangers. On a un statut à part alors qu'on est des citoyens de ce pays. Je suis allé voir des Roms installés en Belgique et en Grande-Bretagne. Là-bas, ils sont intégrés, ils n'ont pas de problème, les enfants vont à l'école. S'ils ont réussi leur vie là-bas, c'est bien qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire ici.
À l'UNIC9, les conditions de vie sont effectivement très précaires et il n'y a que 6 travailleurs sociaux pour plus de 6500 habitants. Les appartements ne sont pas chauffés en hiver et il n'y a de l'eau que 2 fois par jour. Rares d'ailleurs sont les logements qui ont encore de l'eau courante. Dans le bois, autour de la cité, des Roms vivent dans des cabanes. Certains ont été expulsés des appartements à cause de factures impayées. Un chef de famille, Elémir, en vient à regretter l'époque du communisme et du travail obligatoire qui lui assurait une certaine intégration. Aujourd'hui, il ne touche même pas le minimum retraite.
J'ai travaillé dans les services techniques pendant 30 ans. Avec les communistes, c'était bien. On avait l'emploi et l'argent. On pouvait faire ce qu'on voulait. Maintenant, on n'a plus rien. Même si on nous donnait 1000 euros, ça ne changerait rien. C'est la pauvreté absolue.
Comme Elémir, ils sont près de 200 Roms à vivre dans la nature et ce camp pourrait s'agrandir avec la destruction prévue de 70 appartements dans la cité sans solution de relogement. L'UNIC9 est l'un des pires exemples de planification urbaine selon les universitaires, un programme mis en place à la fin des années 70 sous le communisme pour intégrer les Roms, mais qui a été abandonné. Marcel Sagna est le nouveau maire de l'arrondissement de l'UNIC9.
C'était le projet ABC sous le communisme. A pour l'armée, B pour la police, C pour les gitans. La moitié, c'était pour l'armée et la police. Et on a forcé les Roms qui habitaient en centre-ville à venir ici. Lorsque les policiers et les militaires sont venus, ils ont vu la cité et ils ont refusé de participer à ce programme.
Depuis, des milliers de Roms ont été parqués dans ce ghetto à Košice et faute de moyens, le nouveau maire se sent impuissant. Pour lui, l'intégration passe par l'éducation et le travail. Il embauche 150 personnes à la mairie et une centaine à peine travaillent à l'usine de métallurgie de Košice. Une situation atypique à l'UNIC9 car dans le reste du pays, plus de la moitié des Roms a accès au logement et au travail. Mais cela reste méconnu.
La chronique.
Bonjour Evmino.
Bonjour Frédéric.
Deux études viennent donner deux éclairages très différents sur les moins de 30 ans. Les jeunes ont moins les moyens de partir en voyage. En revanche, les Français sont de plus en plus nombreux à s'expatrier pour étudier ou travailler.
Oui, les résultats publiés par l'INSEE sont sans appel. Le nombre de personnes ayant quitté la France pour l'étranger a explosé entre 2006 et aujourd'hui. Il a été multiplié par 1,5 et près de l'écrasante majorité des candidats, 80% pour certaines années, étaient des jeunes âgés entre 19 et 29 ans. Mais attention, pas de fuite des cerveaux. Pour autant, ce sont les démographes qui le disent. Ces tendances sont dues à la mondialisation, à la mobilité et concernent tous les pays de l'OCDE. La France n'est donc pas particulièrement délaissé par ces jeunes, pas plus que les autres en tout cas.
Donc on peut imaginer que cet appel lancé en France il y a quelques années pour inciter les jeunes à s'expatrier a été suivi.
Oui, souvenez-vous, quelques éditos brûlants avaient lancé le débat dans la presse française. C'était il y a à peu près 3 ans. Fait-il bon être jeune en France? Parmi ceux-là, un jeune français installé à New York voulait pousser les générations nées après 80, les générations Y et Z, à partir chercher la réussite ailleurs. Depuis, il pilote le site Youthnomics, une contraction de Youth et de Economics, la jeunesse et l'économie. Une plateforme numérique dédiée à la mobilité des jeunes. Dernière publication en date sur le site, un classement des 20 pays où l'on vit le mieux en tant que jeune. Et les jeunes européens ne sont pas trop mal servis, puisque la Norvège, la Suisse, le Danemark et les Pays-Bas forment le top 5.
Des jeunes qui émigrent donc toujours plus, mais qui voyagent de moins en moins.
C'est en tout cas la révélation de l'autre grande étude dont vous parliez, menée conjointement par un institut allemand et la Grande Foire du Tourisme de Berlin. Au départ, les chiffres avancés dans cette étude sont plutôt surprenants. Moins 10% de voyages effectués par les jeunes européens à l'étranger en 2014 par rapport à 2007, ce qui en fait l'un des rares secteurs touristiques européens où la tendance est en recul. En réalité, la première explication est là aussi démographique. Le nombre de jeunes européens baisse, car globalement, les naissances reculent, tandis que les retraités voient leur rang augmenter, et donc le nombre de leurs voyages augmenter. L'année dernière, ce sont tout de même près de 54 millions de jeunes qui ont été voir si l'herbe était plus verte chez le voisin.
Et où sont-ils alors allés, ces jeunes?
Eh bien là aussi, quelques surprises. En 2007, leur destination préférée était l'Espagne, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne, plutôt le sud et le soleil, donc Frédéric, est la capitale anglaise pour la fête et la vie culturelle. Mais une petite nouvelle a fait une entrée fracassante jusqu'à devenir la destination préférée des jeunes en 2013, l'Allemagne et surtout Berlin, sa capitale. Les séjours de jeunes Européens en Allemagne ont connu jusqu'à 60% d'augmentation certaines années, c'est-à-dire le phénomène de mode. D'autres pays ont également suscité davantage l'intérêt des jeunes Européens, comme la Suède, la Croatie et les Pays-Bas.
Et puis il y a aussi beaucoup de nouveaux en matière de logement.
L'économie 2.0 est passée par là, car si les jeunes voyagent moins, c'est aussi bien sûr qu'ils n'en ont plus les moyens. Et pour ceux qui s'en sortent, mieux, pas question de dépenser sans compter, l'option la moins chère est toujours la meilleure. Moins d'un jeune sur deux a recours à un hôtel durant son séjour à l'étranger. On plébiscite par contre l'option couchsurfing, hein, logement chez l'habitant, gratuite, et son alternative Airbnb, plus confortable mais forcément plus chère, payante. En moyenne, les jeunes Européens dépensent au total un peu moins de 700 euros pendant leur séjour, 80 euros par nuit en moyenne donc.
Et surtout, les jeunes Européens passent beaucoup de temps sur Internet à la recherche du bon plan.
Ils font fonctionner leur réseau pour trouver l'option de logement la moins chère, la pépite pour aller manger, le bar qui fait la meilleure happy hour. Bref, ils voyagent malins et surtout très très connectés.
Et quitte à laisser faire le destin.
Oui, c'est une nouvelle tendance du tourisme qui vise surtout les jeunes. Ce sont les compagnies aériennes qui exploitent le filon. Les départs en week-end, même en low cost, sont devenus à peu près inabordables pour les jeunes. Surtout s'il s'agit d'un week-end chargé. Seule solution, partir en semaine ou laisser la compagnie choisir la destination pour vous en fonction du tarif. Par exemple, pour 33 euros, vous entrez vos dates de séjour, un thème, nature, fête, culture, et la compagnie aérienne vous attribue d'office une destination.
S-O-R-T-I-R.
De la radio au cinéma, le concept peut paraître étrange et c'est pourtant ce qui se passe une fois par mois à Copenhague au Danemark. Le concept, écouter des documentaires radiophoniques sous la forme de feuilletons, ensemble et dans le noir, ou encore écouter des polars ou des émissions cultes. Le public est au rendez-vous pour ces séances de radio biographe. Récit avec notre correspondante Sung Shim Courrier.
Au premier rang, il y a les organisateurs de la soirée, une bande de jeunes réunis autour de leur passion commune pour la radio. Soudain, c'est le noir. Les voix se taisent et laissent place au son. Quelques secondes du documentaire suffisent pour allécher la centaine d'auditeurs présents dans la salle. Retour à la lumière, un jeune homme se lève, il introduit le thème de cette 37e édition du Radio-Cinéma. Il présente les invités du soir, deux journalistes qui ont mené l'enquête sur le suicide d'un homme par immolation en avril 2014. Ce fait divers avait marqué les esprits, car l'homme avait accompli son geste devant la mairie où il était employé, sous les yeux effrayés des passants. Pendant tout le mois de juillet, du lundi au vendredi, les Danois ont vibré au rythme des mésaventures des deux reportrices. L'homme en feu, c'est le titre de cette série de 25 épisodes d'enquête journalistique pleine de rebondissements. La salle est de nouveau plongée dans l'obscurité et l'atmosphère tendue de la série. Cette fois, nous sommes dans une voiture, avec elles. Elles sont stressées, elles ne retrouvent plus leurs notes. Puis, on est témoin de leur conversation musclée au téléphone avec le maire de la ville. C'est par sa simplicité et par sa transparence que ce radio-documentaire a su séduire le public. Au bout de 20 minutes, on reprend son souffle. Les journalistes se lèvent et donnent quelques éléments de contexte. Elles reviennent sur ces moments difficiles qui, aujourd'hui, les font sourire. Elles partagent aussi leurs doutes et leurs inquiétudes rencontrées pendant les enregistrements. On écoute ensuite deux autres extraits qui vont crescendo dans le dénouement de l'histoire, avec à chaque fois un retour sur les anecdotes des deux femmes. Puis c'est au tour du public de poser des questions. Un échange fascinant se perd, qui aborde autant l'éthique journalistique, les choix éditoriaux que les zones d'ombre de l'enquête.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Pierre Chaffanjon. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe. À bientôt.
Des nouvelles, Jean-François